commencement était la parole, nous dit l'évangile de Jean. Une parole qui nous a appelés, tous, qui nous a appelés par notre nom. Une parole qui nous a appelés à nous mettre en route. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Par elle, nous avons la vie. Par elle, Dieu fait de nous ses enfants. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à vous tous qui êtes parmi nous aujourd'hui et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux et parfois même un peu plus tard. Merci à tous, vous êtes parmi nous, que vous soyez de cette paroisse ou pas du tout, ou de passage. Soyez ici chez vous. Mon nom est Valérie Lobry-Granger, je suis prédicatrice et je suis surtout la présidente du conseil presbytéral de ce temple. Mais je ne suis pas pasteur et donc je suis très très stressée à chaque fois que je prêche, comme vous pourrez l'imaginer. J'espère que vous avez chacun un cantique et une feuille de liturgie et je vous propose de commencer ce culte avec le premier spontané. Pour louer Dieu ce matin, j'ai choisi de partager un texte tout à fait inhabituel, puisqu'il s'agit d'un texte de la rabbine Delphine Horviller. C'est un texte sur la laïcité française. La laïcité comme protection de tous les dieux et de tous les croyants. Et il me semble, en lisant ce texte, vous allez me dire ce que vous en pensez, que Charles Wagner et que le foyer de l'âme pourraient s'approprier complètement ce texte tant il correspond à ce que nous prêchons ici. La laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'a rien à voir avec cela. Elle n'est ni fondée sur la conviction que le ciel est vide, ni sur celle qu'il est habité, mais sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il reste toujours une place qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi ou une espérance de saturer tout l'espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. Voilà le cadeau que je voulais vous faire en début de culte. Je vous propose de vous lever et de chanter le cantique 244, les strophes 1, 3, 4 et 5.
Aujourd'hui
crie en Dieu. Pardon, excusez-moi, nous allons écouter la volonté de Dieu pour nous, d'abord. Dans la lettre aux Galates, nous lisons « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement « Aime ton prochain comme toi-même. » Et nous prenons le deuxième spontané dans ta parole, ô Dieu. Ton nom passe dans notre histoire, comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Et nous chantons le spontané, vers toi j'élève mon âme. Écoutez l'annonce de la grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous propose de rester debout pour chanter le cantique 272, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Seigneur, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Alors ce matin, nous allons lire un... Ça y est, vous me voyez. Donc ce matin, je vais vous lire un livre que vous un texte que vous connaissez bien. Il s'agit de la parabole du fils prodigue. Et donc, elle est dans Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 20. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Alors, le fils prodigue. S'il y a vraiment un classique dans la Bible, c'est bien celui-là. Vous l'avez entendu déjà pas mal de fois et probablement depuis votre enfance. Et vous avez probablement entendu pas mal de prédications sur ce texte. Et comme d'habitude, avec les paraboles de Jésus-Christ, il y a plusieurs lectures dans ce texte. Je commence par la plus classique et la plus rapide, celle que vous avez dû déjà entendre. Un homme a deux fils, un fils obéissant et un fils rebelle. Le rebelle réclame sa part d'héritage à son père, il va le dilapider en menant une vie dissolue, pendant que l'autre reste sagement auprès du père. Lorsque le fils profiteur a perdu tout son bien, il rentre, misérable, pour implorer son père de le reprendre. Et celui-ci, au lieu de le traiter d'ingrat, de lui fermer sa porte, l'accueille à bras ouverts comme un trésor retrouvé. Au fond, c'est une parabole très morale. Le fils désobéissant se rend compte comme il a mal agi, comme nous agissons mal. Le père, évidemment, c'est Dieu qui nous donne et qui nous pardonne, et dont la miséricorde paraît réellement surhumaine. Les deux fils, ce sont les hommes tels qu'ils sont, certains gentils, d'autres méchants, et qui se conduisent mal. Et je vous avoue que cette interprétation que j'ai entendue, comme vous, dans mon école du dimanche, par exemple, quand j'étais enfant, elle m'a toujours un peu dérangée. Parce que, au fond, la morale de cette histoire, ce serait « Regardez ceux qui font ce qu'on leur dit de ne pas faire. » ceux qui essaient de voler de leurs propres ailes, orgueilleux qu'ils sont de s'imaginer qu'ils peuvent faire leur vie tout seuls, loin de nous, regarder comme il leur arrive malheur. Et ce serait ça notre destin, en tout cas celui qu'on nous proposait, rester fidèlement auprès de notre Père, faire comme lui, toujours obéir sans discuter, marcher dans ses pas, ne jamais chercher ailleurs. Alors plutôt que de me focaliser sur le retour du Fils, je voudrais ce matin vous proposer un autre angle de lecture et m'intéresser à tout ce qu'il y a eu avant et après son départ, autrement dit tout ce qui a été constitutif de sa relation avec le Père, de sa rupture et puis de son retour. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai lu que le début du texte, qui se poursuit, vous le savez, avec la réaction furieuse de l'autre frère, jaloux comme Caïn, du pardon du Père à son frère frondeur. Cette deuxième partie n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Au fond, cette parabole, elle contient le raccourci de toute vie humaine. L'enfance, l'éducation, la parentalité, l'adolescence, le choix ou le non-choix de sa vie d'adulte. Elle contient aussi la transmission, de génération en génération, de ce que l'on reçoit de ses parents, de ce que l'on donne à ses enfants, en matériel ou en immatériel, la liberté qu'ils prennent ou pas. Elle contient aussi l'inégalité, l'injustice perçue, qui est la source de la haine ou de la colère, et bien sûr le pardon et la miséricorde. Évidemment aussi, ce texte nous dit beaucoup de notre relation à Dieu. Mais aussi, il résonne tellement fort dans notre relation à nos enfants que je ne peux m'empêcher, en y réfléchissant, de passer constamment d'un contexte à l'autre, celui de Dieu par rapport à nous, d'un côté, et celui de nous comme parents par rapport à nos enfants, comme vous allez le constater ce matin. Et pour travailler sur ce texte, je me suis largement appuyée sur un ouvrage formidable que je vous recommande chaudement. Ça s'appelle « Les grandissants » et ça a été écrit par Marion Muller-Collard. Il se trouve que j'avais entendu une interview d'elle il y a un an à peu près sur France Culture lorsque son livre est sorti et que j'ai ressenti à l'écoute de cette émission comme un soulagement de l'entendre en quelque sorte réhabiliter ce mauvais fils prodigue. Vous allez le comprendre pourquoi. J'ai donc acheté le livre qui m'a passionnée et qui a servi de base et d'inspiration à ma prédication de ce matin. Je lui ai dit d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, je vous assure, je ne fais pas de plagiat, mais vraiment, je me suis beaucoup inspirée de vous. Mais commençons par le commencement. Un homme avait deux fils, qu'il a sûrement élevés comme nous le faisons tous, avec de l'attention pour chacun, un véritable don de soi, qu'il soit physique, financier, moral, des hésitations fréquentes, des inquiétudes, des joies aussi, bien sûr. Car l'arrivée d'un enfant, c'est ce tsunami d'émotions auquel ceux d'entre nous qui sont parents avons tous été confrontés. Un être dans lequel nous projetons tout ce que l'avenir nous propose de meilleur. Un être exemplaire, intelligent, compréhensif, heureux, équilibré. Bref, en quelque sorte, une version idéale de nous-mêmes. Aucun de nous ne fait le compte de cet investissement parental pour chaque enfant. Mais tout de même, permettez-moi de vous rappeler quelques épisodes. Les nuits sans dormir, les maladies, les accidents, les retours du bureau en urgence appelés par l'hôpital, les innombrables soirées à faire des devoirs scolaires auxquels on ne comprend rien, les conduites au scout, à la musique, au foot, les frigos qui se vident à peu près aussi rapidement qu'ils se remplissent, les caprices pour le skateboard, pour le scooter, la résistance face à la pression des portables, les fins de mois difficiles, les copains qui nous plaisent plus ou moins, les fêtes, l'inquiétude quand ils ne rentrent pas, la pression sur les résultats scolaires, le casse-tête de l'orientation, les séjours à l'étranger, etc. etc. J'arrête. Ça sent le vécu. Donc, au moment où l'adolescent devient adulte, où le père pourrait être tenté de lui dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois de bien travailler, d'être gentil, de ne pas poser de problème, etc. etc. » Eh bien, l'adolescent renverse le rapport de force et il demande sa part. Mais sa part de quoi ? Nous entendons le bien, donc l'héritage, mais le texte est plus subtil. Le mot grec utilisé dans ce texte, c'est « ousia ». Et ousia, il ne s'agit pas tout à fait d'héritage ni de biens matériels, mais plutôt de substance, de sens. L'ousia, c'est un des concepts qu'on retrouve dans la philosophie d'Aristote, que l'on pourrait définir plus simplement par l'unicité d'un être, ce qui relie la forme à la matière. Et donc ce que réclame le fils, ce n'est pas une somme d'argent, C'est peut-être bien la possibilité d'être pleinement lui-même, de se libérer de l'influence du Père, de trouver un sens profondément unique à sa vie, on pourrait dire son identité. Et le texte dit « L'homme leur partagea son bien », ce qui veut dire qu'il donna la même chose à l'un et l'autre de ses fils. La traduction que j'ai utilisée, celle de Segond, utilise le mot « bien » dans les deux phrases. Mais en fait, il s'agit de quelque chose de plus immatériel et le texte original n'utilise pas le même mot. À l'ousia de la demande du fils, le père répond par le mot « bios », qui désigne la vie même ou l'essence de l'être. Ainsi, le don du père, qui répond aux souhaits du fils, porte plutôt sur une nouvelle vie offerte, ou plutôt la liberté de vivre sa vie par lui-même. Voilà fini donc le temps où le père surveille et encadre leurs activités, terminé les sanctions pour les enfants indisciplinés, le regard par-dessus l'épaule du fils, le « tu devrais faire comme si, moi à ton âge », etc., etc. C'est bien donc la fin de la dépendance que réclame le fils, le droit de vivre par lui-même. Il attend que son père le libère de cette obligation de respect et de déférence, qui lui donne les clés en quelque sorte, en lui disant « Ok, c'est ton tour, je te libère de toute cette dette morale, financière, fais à ton idée, maintenant tu es le maître de ta propre vie, fais ce que tu veux. » Et c'est effectivement à cela que ceux d'entre nous qui sont parents sont confrontés dans l'éducation de leurs enfants. Depuis leur naissance, nous vivons dans cette illusion que nous sommes tout-puissants à leurs yeux, qu'ils sont physiquement, mentalement et matériellement dépendants de nous. Nos enfants petits nous aiment inconditionnellement. Leur admiration nous comble, car elle va presque au-delà de l'amour que nous leur portons, alors même que nous n'imaginons pas que, depuis leur naissance, ils sont déjà sur le chemin du départ. Nous avons du mal à penser qu'il va falloir de gré ou de force leur donner cette liberté, la responsabilité de leur propre vie. Remarquez une chose, nous sommes choqués de cette démarche du fils qui s'en va, mais au fond, le père, lui, ne l'est pas tant que ça. Il ne s'oppose pas à cette demande du fils, on dirait presque qu'il s'y attend, puisqu'il accède aussitôt à sa demande. Les parents élèvent leurs enfants de la même façon, avec les mêmes principes, souvent le même cadre, et pourtant, chaque enfant a sa personnalité propre, qui fait qu'au sein d'une même fratrie, tous sont à la fois proches et différents. Chacun accède également à une maturité, à un âge différent. Ainsi, chacun des deux fils du texte reçoit sa part, chaque fils est libéré de ses obligations d'enfant par leur père, comme s'il les mettait tous les deux avec leur barda sur le pas de la porte, en leur disant « Allez-y, maintenant vous êtes libres, il se trouve que l'un en use et l'autre pas ». Et il y a fort à parier que le fils prodigue, en faisant ses bagages, en rassemblant tout, comme dit le texte, a commencé ce long tri auquel une vie ne suffira pas. À qui dois-je ce qui est à moi? Est-ce bien à moi si je le dois à quelqu'un? Peut-on garder la chose et la dette? Le plus jeune dans cette histoire est donc entré dans l'âge décisif avant son frère, qui lui s'attarde dans le berceau des idées reçues. Et comme l'exprime Marion Muller-Collard, ce commerce de l'enfance entre nos parents et nous ressemble finalement au prêt sur gage d'un mont-de-piété. On donne en gage notre ignorance et notre confiance, et l'on reçoit en échange ancrage et mémoire. Et soudain, à l'adolescence, on secoue ancrage et mémoire qui nous encombrent pour construire notre propre histoire en s'extrayant brutalement de celle de nos parents. Cette rupture n'a aucun rapport avec la qualité de ce qu'on quitte. Ce n'est pas une fuite, c'est une conquête revendiquée. C'est le rejet d'un amour de parent qui projette son propre destin dans celui de son enfant. Donc le jeune homme s'en va, s'échappant à l'emprise perçue de son père après avoir réclamé son dû. La dette dont il est question ici remonte à la nuit des temps. Chaque créancier est aussi débiteur. Donner la vie est sans mérite. On ne donne que d'avoir reçu, on rembourse à la génération suivante ce que l'on a reçu de la précédente. Mais il y a une condition à son départ, qui est fondamentale dans le texte. Le père, à son départ, doit accepter de s'effacer, accepter de rester, accepter de recommencer à attendre son enfant. Je vous lis un poème écrit par Paul Baudiquet en commentaire au tableau de Rembrandt qui est un tableau magnifique qui représente le fils prodigue. Et il a écrit le poème suivant en regardant ce tableau, en parlant du père. Son visage d'aveugle, il s'est usé les yeux à son métier de père, scruté la route obstinément déserte, guetté du même regard l'improbable retour, sans compter toutes les larmes furtives. Il arrive qu'on soit seul. Il arrive qu'on soit seul. N'est-ce pas l'objectif de toute éducation ? Apprendre à nos enfants à être seuls ? C'est le paradoxe de l'éducation, car l'arrivée d'un enfant comble à jamais notre solitude. Nous avons l'impression que plus jamais nous ne serons seuls. Et pourtant, toute leur enfance, nous les exerçons à cette séparation future, à cette autonomie que nous leur souhaitons. Nous leur apprenons notre absence, notre disparition progressive de leur vie. Mais à l'âge de la séparation, si leur solitude signifie partir, pour nous, elle signifie rester, et nous n'y sommes absolument pas préparés. Rester, pour des parents, ça veut dire s'effacer, ça veut dire accepter de voir le rapport de force s'égaliser, et puis même s'inverser. En tout état de cause, ça veut dire ne pas le retenir, rester à notre place pour lui permettre d'en prendre une plus grande et se réapproprier notre solitude. Je me souviens de bien des angoisses pendant l'adolescence de mes enfants, de réveils nocturnes pour lesquels je n'ai jamais trouvé qu'un seul mantra, une seule parade, que je me répétais comme un mantra. J'ai semé les bonnes graines pendant toute leur enfance, je dois leur faire confiance. Elle part à l'autre bout du monde, il abandonne ses études, il laisse tomber ce boulot ou cette compagne que je trouvais parfaite, il investit toutes ses économies dans une start-up à laquelle je ne comprends rien. Il est temps de leur faire confiance. Sans aucune réserve. La confiance que j'ai moi-même arrachée un jour à mes parents. Cette confiance ne vaut pas abandon. Elle est donnée une fois pour toutes à celui qui sait qu'il sera toute sa vie attendu sans réserve. Elle est une absolue assurance. Je suis là pour toujours quand tu auras besoin de moi. Je suis là pour toujours pour te rassurer de ma présence et de mon amour. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui tu pars que je t'aime moins, ou que je t'en veux, ou que mon amour pour toi s'effritera avec les années qui passent. La confiance peut être déçue, bafouée, mais elle ne sera jamais reprise. À quel moment sommes-nous capables de donner cette confiance sans aucune réserve à nos enfants ? Non, il n'y arrivera pas. Non, il n'est pas assez grand, elle n'a pas l'expérience qu'il faut, elle est trop ceci, je vais l'aider, je vais faire ce qu'il faut. La peur de faire confiance est grande et le risque est bien de ne jamais croire l'enfant assez grand pour aller seul. Et c'est là où le père de la parabole ressemble plus à Dieu qu'à un parent humain. « Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur par la bouche du prophète Jérémie, et mon amour pour toi ne faiblira point. Il a enfanté, élevé, il a enseigné et il laisse partir sans un reproche. » Confiant dans les graines qu'il a semées et confiant dans son enfant devenu adulte. Et d'ailleurs, que fait-il de cette liberté ? L'histoire nous dit qu'il part pour un pays éloigné, qu'il dissipe son bien en vivant dans la débauche. Très clairement, il choisit la pire voie, celle qui l'éloigne le plus de son père et de l'enseignement qu'il a reçu, et ce n'est sûrement pas par hasard. Dans notre chemin de foi comme dans notre chemin de vie, nous avons besoin de ces chemins de doute, d'errance et parfois même de folie. Nous avons besoin de changer d'horizon et de renier nos ancêtres, nos parents, nos frères. Nous avons besoin de critiquer, de remettre en cause, de choisir la voie inverse à celle qu'on nous a toujours indiquée. Et tout cela prend plus ou moins longtemps. Parfois c'est court, et parfois il faut une vie entière pour trier l'essentiel de l'accessoire. Et peu importe le temps que ça prend pour trouver sa vérité propre. Le texte dit donc qu'il vient à manquer de nourriture et que les épreuves s'accumulent, que le jeune homme essaie d'approcher d'autres hommes, de créer des alliances, peut-être un foyer, mais les malheurs s'accumulent. Il est finalement rabaissé au rang d'un animal, comme une chute sans fin qui l'attire vers le fond. Est-ce que ce manque ne serait pas un passage obligé pour éprouver sa propre force, sa résistance, sa capacité à trouver en lui-même une solution ? Le passage obligé également pour rentrer en lui-même, comme le dit le texte. Et c'est aussi le tournant de la parabole, Le garçon qui rentre en lui-même éprouve dans sa chair et dans son cœur le manque, la désillusion, la honte, et qui trouve le courage de se relever pour la première fois de sa vie. Oui, il faut probablement ce passage pour que l'homme nouveau qui est né rebondisse, trouve le courage de se remettre en marche, d'aborder son père, non comme un fils docile ou pécheur, mais comme un homme qui veut établir une nouvelle sorte de contrat, une relation adulte, consentie et égalitaire, sans dette ni créance. Et la voilà vraiment la réhabilitation du fils prodigue, non seulement le plus mature de ses deux fils, mais aussi le plus courageux, le plus ambitieux, le plus actif. Dans son dernier livre, Delphine Horviller, dont je vous parlais déjà au début de ce culte, mentionne qu'en hébreu, le verbe « être » ne se conjugue pas au présent. On ne peut pas dire « je suis », mais on peut dire « j'étais » ou « je serai ». C'est une impossibilité assez utile, parce qu'elle empêche notamment de se définir d'une unique façon. On était plusieurs choses, et on sera d'autres choses en constante évolution. Et l'identité, c'est finalement une transition entre ce que l'on était et ce que l'on sera. Alors me direz-vous, quel rapport entre ces considérations sur la parentalité et notre relation à Dieu ? Relire la parabole sous le premier angle, avec un Dieu qui crée et s'occupe de ses enfants, c'est constater beaucoup de similitudes, mais tout de même quelques différences essentielles avec nos relations familiales. Tout d'abord, le Dieu du texte ne s'étonne jamais de la différence entre ses enfants. L'un docile, l'autre rebelle, il ne fait aucune différence entre eux et ne les en aime pas moins l'un que l'autre. C'est un Dieu qui libère facilement, sans discussion, presque heureux de nous voir partir et agir, nous poussant autant vers la liberté que vers la responsabilité qui va avec l'indépendance. Un Dieu qui s'efface quand nous prenons cette liberté, ne cherche pas à nous retenir, reste à sa place, en nous assurant de sa confiance totale, immuable, qui ne sera jamais remise en cause. Un Dieu qui nous aime, malgré notre faiblesse, dans nos malheurs et dans nos bonheurs. Un Dieu qui nous attend, vigilant, à notre disposition, dans l'ombre ou dans la lumière de nos vies. Un Dieu de confiance, qui accepte nos chemins de traverse, nos errances, nos erreurs, nos doutes, qui se réjouit de nos retours et ne nous reproche pas nos départs. Un Dieu devant lequel nous ne sommes jamais redevables d'une dette ou d'un ressentiment, dont la comptabilité se résume à l'abondance de son amour et de sa patience. Un Dieu qui n'attend ni reconnaissance ni servilité, mais qui se réjouit de découvrir cet adulte qui lui tend la main. Un adulte qui n'est pas forcément celui dont il rêvait, encore moins une meilleure version de lui-même. Oui, il y a une marge de progression entre les parents humains et le Dieu de Jésus-Christ. Dire ce lien nouveau entre le parent et celui qui n'est plus un enfant, dire cette liberté qui nous relève et nous oblige, dire ce relais qui nous est passé et qui fait de nous des êtres adultes et confiants, des êtres qui s'épaulent et qui se complètent à égale responsabilité. Amen.
Thank you.
Je vous propose de vous lever pour confesser notre foi. Je crois que de tout temps, les humains ont levé les yeux vers le ciel pour y chercher apaisement, espérance et joie. Je crois qu'ils ont appelé Dieu cette lumière qui donnait du sens à leur vie, cette force invisible qui les guidait dans la nuit, qui leur redonnait confiance dans le malheur. Je crois qu'un jour un homme est venu, un humain comme les autres, qui s'appelait Jésus. Sa vie a été un exemple de bonté, de sagesse, de liberté, d'attention pour chacun, de protection pour les plus faibles et de liberté pour tous. Je crois qu'il n'avait aucun doute sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aucun doute sur l'égalité entre une religion et une autre, entre une origine et une autre. Il est mort sur la croix, mais sa vie, son exemple et son enseignement sont entrés dans l'éternité. Je crois qu'il nous a passé le relais pour poursuivre son œuvre et construire son royaume malgré notre faiblesse, nos doutes, notre paresse. Je crois que Dieu place sa confiance en nous comme nous la plaçons en lui. Je crois à l'amour plus fort que la mort, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et nous prenons le... Maintenant, le moment des annonces, et il y en a plein cette semaine, plein d'événements à venir, puisque vous savez que cette semaine se termine par la fête de l'amitié, dont Isabelle viendra nous parler, évidemment, puisque c'est le grand événement de l'année. Je voudrais vous rappeler tout d'abord que les prédications et les cultes sont également accessibles maintenant par toutes les plateformes de streaming audio, que ce soit Deezer, Spotify ou autre. C'est très très agréable de pouvoir écouter ça dans le métro. Et donc, si vous êtes abonné à une de ces plateformes, vous pouvez maintenant vous connecter et avoir les prédications du Foyer de l'âme, ce qui est bien. Merci à Thomas, Gilbert et tous ceux qui œuvrent chaque semaine pour nous faire moderniser de manière très, très rapide. Je vous rappelle d'abord la collecte alimentaire qui a lieu chaque dimanche et qui a lieu également aujourd'hui. Vous avez, comme d'habitude, la liste des aliments ou des produits les plus demandés qui est affiché au fond de ce temple. Notre pasteur Dominique Hernandez ainsi que le délégué au synode Jean-Paul Augier et sont au synode régional tout le week-end. Nous pensons à eux car ce synode est donc consacré à la vie régionale. Ils sont partis hier matin, ça a commencé à 7h30 et le programme devait se terminer vers 9h du soir, donc c'était quand même... Et pareil pour aujourd'hui, donc je ne sais pas dans quel état ils vont rentrer, mais c'était du dense. Alors, je voudrais vous signaler mardi 22, un événement important qui se tient ici, la convention du Forum protestant au Foyer de l'âme sur le thème « Vieillir, un défi pour la société et pour l'Église ». Vous avez des feuillets au fond de la... du temple là-dessus. Venez nombreux, c'est un forum qui a donc lieu une fois par an, qui commence à 17h jusque vers 21h30 avec des contributions et des participations extrêmement intéressantes. La convention du forum protestant a été créée en 2013 pour faciliter l'expression et l'échange des idées, opinions et expériences sur les sujets de société dans un cadre protestant et ainsi faire mieux entendre les voix des protestants sur ces questions dans la société française. Voilà, donc je vous invite à venir nombreux mardi en fin d'après-midi. Jeudi 24, comme chaque jeudi, la pause biblique de 12h30 à 13h30. Jeudi également, réunion du comité d'entraide à 7h et à 19h30 par Zoom, le séminaire de Laurent Gagnebin sur les théologiens protestants, qui cette fois-ci sera sur Paul Tillich, me semble-t-il. Le lien Zoom et le texte de Tillich proposé par Laurent Gagnebin seront envoyés mardi aux personnes inscrites. Alors, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27, fête de l'amitié. Donc, Isabelle, viens donc nous parler de la fête de l'amitié et de tout ce dont nous avons besoin pour venir nous réjouir, mais aussi pour apporter des choses.
Bonjour. Écoutez, c'est une fête de l'amitié qui s'annonce bien. Il y a beaucoup de gens qui participent. Et beaucoup au milieu de vous. Donc, je vous remercie. Je crois que le foyer de l'âme vous remercie. Et c'est très gai et très sympa. Alors, il manque éventuellement des petites permanences, mais enfin, ça devrait aller. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'envoyer des invitations. C'est que vous fassiez circuler cette info et qu'il y ait du monde. Ça nous change un peu du post-Covid, par exemple, que cette année, on soit nombreux. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche.
Est-ce qu'on a des outils pour envoyer l'invitation ?
Eh bien oui, on a les outils que je vous ai envoyés. Le mailing avec où on décrivait le programme de la fête de l'amitié avec l'image et les quatre petits ronds significatifs, l'avant, la couronne de l'avant, la colombe, bref, j'ai oublié le reste. Pourtant, c'est moi qui l'ai faite. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous pouvez réutiliser ça en gardant éventuellement, si vous voulez, le programme et en enlevant tout le bas avec toutes les demandes. On a besoin de pain, de vin, de tarte. Ça, vous pouvez l'enlever.
Bon, est-ce que vous avez tous reçu ce mailing ? Donc, vous allez le faire dès cet après-midi. Invitez vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents, vos oncles et tantes et tous ceux que vous connaissez et que vous aimez. Donc, voilà pour la fête de l'amitié. Dimanche 27, culte à 10h30 pendant la... Enfin, ça aura lieu au milieu des... Vous savez qu'au milieu des stands, donc le culte aura lieu au-dessus, sur les plateformes au-dessus. Et nous aurons également dimanche prochain la sortie des enfants de l'école biblique et du pré-caté à la pagode du Bois de Vincennes. Rendez-vous donc pour les parents à 10h au foyer de l'âme. Voilà, alors maintenant c'est le moment de l'offrande. Offrons avec cœur, avec joie. Ah pardon, bien sûr, s'il y a d'autres, annonces.
Oui, je voulais juste dire quelques mots, je vais être rapide, d'une rencontre qui aura lieu le vendredi 2 décembre à 19h30. C'est bien ça, 19h30. Alors, l'idée, c'est une rencontre entre des groupes qui pratiquent une lecture ouverte de la Bible, une lecture libre par rapport aux interprétations traditionnelles dans ce qu'elles peuvent avoir éventuellement de soit savante, soit dogmatique, soit les deux. Et cette démarche, elle a commencé, voilà, je vous parle de la part de l'association Les Ateliers de Bible et Psychanalyse. Et donc la démarche de rencontre, elle a commencé quand il y a eu ici la pièce Chercher la faute. Voilà, inspiré d'un livre du travail de Marie Balmary. Et puis, pour nous, on a le sentiment que ça continuait, ça a été réactivé, ce désir, quand on a participé à l'étude du Notre Père avec Denis Guénoun, et qu'il parlait de son goût pour les béatitudes et son envie de travailler les béatitudes. Donc, la rencontre qui est proposée, c'est donc entre des participants des ateliers Bible et psychanalyse et tous les amis du foyer de l'âme qui voudront bien venir. Alors, je vais juste vous dire quelques mots du mode de travail de Bible et psychanalyse, histoire de savoir de quoi il s'agit. Le côté psychanalytique, ça signifie que le travail est basé sur l'association libre, c'est-à-dire une expression des idées qu'on a à propos d'un texte qui doit être aussi spontané que possible et basé essentiellement, non pas sur des études particulières, mais sur l'intuition et l'expérience vécue. Alors, par contre, elle est enrichie de l'approche du texte dans les langues originales, parce que, d'une part, on se base sur un texte, sur une traduction assez littérale, quelquefois très littérale et pas compréhensible, mais du coup, ça ouvre des possibilités. Et puis, sur le fait que la traduction des mots, en ayant recours aux langues originales, elle est du coup ça introduit des nuances, des ambiguïtés, des contradictions. Enfin, on connaît déjà tout ça parce qu'on utilise souvent des traductions différentes et donc on voit les différences. Je précise qu'il n'y a absolument pas besoin de connaître le grec et l'hébreu, bien sûr, pour participer. Que tous ces renseignements sont donnés par un certain nombre de gens de l'association qui, eux, connaissent et étudient, se passionnent pour ça, et puis qu'on peut aussi utiliser des outils numériques maintenant, et voilà. Mais que c'est vrai que ces pistes, ça ouvre des associations supplémentaires par rapport au fait de lire juste les traductions françaises qu'on peut avoir à sa disposition. Et voilà. Et du coup, je voulais juste dire de notre part, enfin la mienne en tout cas, parce que moi j'ai été élevée dans le protestantisme et que je fréquente cette association depuis 20 ans, que d'une part je n'ai pas été dépaysée parce que je trouve que c'est tout à fait le style de lecture de la Bible que j'ai eu depuis mon enfance, le fait de l'associer avec le vécu, et que donc ne vous sentez pas intimidée, il n'y a pas de quoi être dépaysée. Que par contre, c'est vrai que j'ai trouvé un émerveillement supplémentaire sur la profonde justesse et vérité de la Bible, parce que j'ai pu découvrir que, c'est un texte qui nous parle profondément de l'humanité et de la construction de la personne et de la construction des relations. Et dans ce sens, ça allait plus loin. Et puis, l'autre versant de notre désir, à part faire découvrir à nos amis d'ici le travail de cette association, c'est en sens inverse. Comme la plupart des membres de l'association sont d'origine catholique et qu'ils n'ont pas eu l'expérience de lecture ouverte qu'on a pu avoir nous dans notre enfance, on avait envie de leur faire découvrir comment c'est la lecture dans le protestantisme et en particulier libéral.
Donc, voilà. Le 2 décembre, à quelle heure ?
À 19h30. Et vous avez, oui.
Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette information très intéressante. Donc, c'est le moment de l'offrande à laquelle, pour nos amis qui nous écoutent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, peuvent également s'associer, puisqu'il y a maintenant, ça me donne l'occasion de vous le dire, une possibilité de donner au Foyer de l'Âme, en un clic à partir du site web du Foyer de l'Âme, littéralement en un clic, où vous avez la possibilité de mettre votre numéro de carte de crédit et de pouvoir donner aussi. Donc, pour vous qui nous suivez de loin, faites-le, ça vous permet également de vous associer à ce que nous vivons également ici. Pendant l'offrande, nous allons chanter le cantique « Confie à Dieu ta route », qui était quand même bien adapté pour la prédication d'aujourd'hui, entièrement, les strophes 1, 2, 3 et 4. Voilà. propose de rester debout pour la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te demandons de nous aider à faire partie des parents qui s'émerveillent de voir leurs enfants grandir et s'épanouir, quel que soit leur choix, à faire partie des enfants qui conjuguent confiance et créativité et cultivent le dialogue avec leurs parents. Toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants. Toutes ces femmes et ces hommes qui souffrent en Ukraine, en Russie, en Afghanistan, en Iran, ces victimes de guerre, ces femmes réduites à l'esclavage, et pour tous ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux que nous avons du mal à aimer, pour ceux auxquels nous n'arrivons pas à pardonner. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour nos responsables politiques, afin qu'ils trouvent ensemble le chemin de la paix, de la justice et de la liberté, afin qu'ils imposent le respect de notre planète comme une priorité pour tous et qu'ils aient le courage de travailler pour les générations qui viennent. Nous te prions pour tous ceux que nous aimons, qui traversent des difficultés et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Et tous ici réunis, nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez, chacune et chacun, sur vos chemins proches ou lointains, continuez votre quête sans relâche, avec au cœur l'assurance de l'amour et de la confiance du Dieu Sauveur. Et chantons notre dernier spontané. Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et demain. Qu'il fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Allez dans la joie.